Le jeudi 10 avril dernier, Rima Hassan, eurodéputée LFI, et Raphaël Maison, professeur de droit public à l'Université Paris-Sud, tenaient une conférence à Rennes 2, son intitulé « Palestine, le droit international à l'épreuve de l'impunité ». À peine annoncé, la droite locale a fait pression sur la présidence de la faculté pour annuler la rencontre, peu ravie de la venue de la députée européenne sur le campus. La présidence, elle, n'a pas cédé, et je me suis donc rendue sur place pour interviewer Rima Hassan. Bonsoir Rima Hassan, alors déjà pour commencer, comment est-ce qu'elle s'est passée cette conférence ?
Ça s'est super bien passé, j'ai eu un accueil chaleureux et moi j'aime bien aussi parler d'amour. Je sais qu'on n'en parle pas beaucoup en politique, mais pour moi il n'y a pas de politique sans amour parce que l'action politique en elle-même, le discours politique doit s'inscrire au nom justement de cet intérêt général. Et donc bon, moi je suis plus sur la défense des droits humains et du droit international et donc j'ai ressenti voilà, beaucoup d'amour en fait dans cet accueil et je suis toujours assez émue de voir qu'il y a quand même une résistance face justement aux tentatives visant à silencier les voix pro-palestiniennes ou palestiniennes et je suis infiniment reconnaissante de la mobilisation étudiante à ce titre pour l'organisation de cette conférence.
Et justement, comment est-ce que vous expliquez une telle mobilisation en France qui est composée principalement eh bien, par des jeunes ?
Alors on a souvent dit que le génocide, on faisait face à un génocide qui était documenté en 4K en temps réel. Donc beaucoup de choses se sont jouées sur les réseaux sociaux et je pense que les étudiants on fait un effort d'auto-éducation sur le sujet, notamment via les réseaux sociaux, parce que effectivement, si on se réfère aux médias ou au discours politique, ça reste très creux, voire vide, voire complice. Et donc, je crois que la cause palestinienne, elle a beaucoup été portée par les mouvements étudiants, parce qu'ils ont eu accès justement à tout ce qui a été partagé et documenté par les Palestiniens, parce que ça a essentiellement été documenté par leur téléphone et diffusé sur les réseaux sociaux. Et comme je l'ai dit, je crois aussi que les mobilisations étudiantes ont toujours historiquement été les pionnières sur des questions internationales et même sur des questions nationales. Mais si on se réfère à la guerre du Vietnam, si on se réfère à la question de l'apartheid, c'est quand même souvent partie justement de ces mobilisations étudiantes et elles imposent un rapport de force qui est extrêmement important dans nos sociétés. Donc voilà, elles ont un rôle qui est central.
Et toutes ces actions, en quoi est-ce qu'elles pèsent sur la situation actuelle et les décisions prises par les États ainsi que les organisations internationales ?
Ben, elles viennent enrayer justement, elles viennent stopper un peu cette question de l'impunité parce que les mobilisations étudiantes, elles sont assez efficaces parce qu'elles se centrent justement sur leur périmètre et donc notamment sur la question du boycott académique. Et donc, je ne sais pas précisément la situation de cette université, mais en tout cas dans les différentes universités où j'ai pu intervenir, les organisations étudiantes étaient mobilisées, c'était structuré autour de revendications extrêmement claires, précises. Donc contrairement à ce qu'on peut dire des mobilisations étudiantes, non, ce n'est pas juste organisé pour foutre le bordel ou pour empêcher les cours de se poursuivre. Et derrière, il y a vraiment une position politique très ferme. Il y a des revendications qui sont très claires. Et donc, le poids des mobilisations étudiantes se joue à ce niveau-là. Mais il faut quand même le resituer dans une dimension internationale. C'est-à-dire que cumuler toutes les mobilisations étudiantes et toutes les revendications, le poids et l'impact est extrêmement important.
Hier, Emmanuel Macron a dit vouloir reconnaître peut-être en juin l'État de Palestine. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Bon, moi, j'ai fait un tweet que je vais vous partager, que la reconnaissance de l'État palestinien n'est pas un cadeau, c'est un dû, et il arrive assez tardivement. Donc, il ne faut surtout pas qu'on se fasse avoir par cette déclaration, ni bravo ni merci. Il faut poursuivre la question, notamment sur la question des sanctions. Donc il ne faut vraiment pas se satisfaire. Il ne faut pas tomber dans ce piège qui consiste à se satisfaire de la question de la reconnaissance. Parce que comme nous l'avons dit aujourd'hui durant cette conférence, il y a déjà 146 États qui reconnaissent l'État de Palestine. Et ça n'empêche pas la question de la colonisation, du génocide et de l'occupation et de l'apartheid de se poursuivre. Donc il est impératif d'aller au-delà. Et nous, citoyens, nous ne devons surtout pas nous satisfaire de cette éventuelle et possible reconnaissance de l'État palestinien par Emmanuel Macron.
Dans cette conférence, vous avez évoqué longuement l'histoire palestinienne. C'est essentiel pour vous de la transmettre ?
Oui, oui c'est primordial parce qu'on ne peut pas comprendre ce qui se joue aujourd'hui à Gaza si on ne revient pas sur les éléments qui ont été déterminants sur la question palestinienne. Donc il y a les accords de Sykes-Picot, il y a la question de la Nakba, il y a la question des accords d'Oslo, mais il y a aussi la question du sionisme, de comment cette doctrine politique en fait est aussi en partie responsable de ce qui rend aujourd'hui la société israélienne malade de son colonialisme. C'est précisément tout ce qui a été posé dans la doctrine politique sioniste. Donc c'est des éléments qui sont très importants, précisément parce que le conflit colonial israélo-palestinien dure depuis près de 100 ans aujourd'hui. Donc si on retrace la question des accords Sykes-Picot jusqu'à aujourd'hui, donc de la fin de la chute de l'Empire ottoman jusqu'à aujourd'hui, c'est un conflit colonial qui est long. Et donc on ne peut pas justement, c'est tout le combat que je mène, on ne peut pas se dire que ça a commencé le 7 octobre. Et pour comprendre ce à quoi nous faisons face aujourd'hui, que ce soit en termes de complicité, que ce soit en termes d'impunité, parce que c'était aussi l'objet de cette conférence, pour comprendre cette question de l'impunité dont bénéficie Israël, pour comprendre cette faillite du droit international, pour comprendre la faillite morale que nous avons dans nos sociétés aujourd'hui, on est obligé de repasser par ces éléments historiques, on est obligé de repenser ou de regarder justement d'avoir un regard critique sur comment le droit international a été façonné, par qui, pourquoi, comment les mouvements décoloniaux se sont structurés, quelle est la place de la question palestinienne dans ces épisodes historiques, et comment aussi la résistance palestinienne s'est structurée pendant des décennies face à l'occupation britannique et israélienne, et aussi comment la société palestinienne en fait elle s'est aussi retrouvée contrainte à répondre à la répression et aux oppressions commises par l'État d'Israël. Donc on ne peut pas comprendre le 7 octobre ni même l'émergence du Hamas si on ne comprend pas la faillite des accords d'Oslo et la faillite justement qu'il y a eu dans la voie diplomatique qui a été embrassée par le peuple palestinien. Donc voilà, c'est des clés qui sont pour moi indispensables pour resituer ce à quoi nous faisons face aujourd'hui, et surtout pour proposer enfin un discours articulé politiquement pour l'avenir. Parce que comme on l'a dit, l'enjeu aujourd'hui, c'est pas juste une question humanitaire ou une question juste de prononcer des sanctions, c'est aussi une question de perspective politique. Et pour proposer ou pour défendre une perspective politique viable pour le peuple palestinien, il faut impérativement embrasser son histoire.
Et enfin, pour terminer, une question sur votre rôle de député au sein du Parlement européen. Comment est-ce qu'on défend la Palestine dans une telle instance ?
Alors, moi, je suis rattachée donc, à la Commission Affaires étrangères et droits de l'homme. Je suis également membre de la délégation UE-Palestine et UE-Afrique. Et donc, je suis vraiment sur les questions internationales. Et dedans, bien sûr, qu'on traite assez régulièrement la question palestinienne. Là, cette semaine, nous avons reçu Anthony Boulanger sur la question des journalistes palestiniens. Donc assez régulièrement, sous des thématiques différentes, on reçoit des interlocuteurs, que ce soit l'UNRWA, que ce soit des experts onusiens, que Francisca Albanese, nous l'avions aussi reçu, la présidente de la Cour pénale internationale. Enfin, voilà. Donc je suis à la bonne place pour en tout cas faire avancer le sujet, puisque la question palestinienne est, comme on l'a démontré aujourd'hui, est liée à la question de la défense du droit international, est liée à la question des défenses des droits humains. Mais comme je vous le disais, je suis aussi bloquée dans la paralysie un peu, ou le déni et la complicité des dirigeants européens face à cette question. Donc je mène la lutte comme je peux, mais face à un rapport de force qui est clairement écrasant. Et c'est pour ça que j'ai conclu aujourd'hui en disant que le rapport de force de la société civile, pour moi, est nettement plus intéressant à investir que d'aller quémander de quelques politiciens des prises de position qui, de toute façon, je pense, ne viendront pas, parce qu'ils sont mieux informés que vous de ce qui se passe. Ceux qui sont au Parlement européen, ceux qui sont dans les commissions, ceux qui sont au Conseil, ils sont mieux informés que nous tous de ce qui se passe. On leur livre très régulièrement les rapports internationaux, etc. Donc, ils sont au fait de tout ce qui se passe, et donc c'est aussi en pleine conscience qu'ils ne prennent pas des décisions qu'on attend d'eux. Donc voilà, il faut composer avec ce rapport de force, et j'essaye de composer justement avec au quotidien au Parlement.
Ok, et merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions.
Merci à vous.